Seigneur, merci pour ton grand amour pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, effectivement. Ton regard, c'est non pas de nous voir tels que nous sommes, mais de nous voir tels que tu nous prévois avec l'œuvre qui est accomplie dans notre vie. Et Seigneur, je prie pour que ce matin, Seigneur, ta parole puisse accomplir son œuvre. Seigneur, que là où c'est nécessaire, tu puisses administrer une parole efficace pour la vie éternelle. Dans le nom de Jésus. Amen. Avant de commencer, j'aimerais donner un verset que le Seigneur a mis sur mon cœur pour cette prédication. Et je suis tombé ce verset de nouveau ce matin en décachetant un courrier qui traînait sur le bureau de Média Espérance, et il y avait un petit verset sur ce papier qui correspond en tout point à un des versets donc que j'avais travaillé. Il s'agit d'Ésaïe 43, verset 19. Je l'ai aussi lu à Brigitte hier, en lui disant que c'était superbe comme verset. Alors je vous le lis. Que celui à qui ça s'adresse le prenne avec foi. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Voilà, j'ai beaucoup écrit. Je me rappelle plus de tout ce que j'ai écrit. Donc soyez indulgents si je regarde mon papier de temps en temps. Dans notre vie chrétienne et dans les communautés chrétiennes, ce qui fait que l'on recherche un réveil spirituel, c'est que souvent on constate qu'il y a un manque. On constate qu'il y a une baisse. Souvent, on se rappelle des premiers jours et on se dit « Ah, à l'époque, j'étais comme ça. À l'époque, j'étais comme ceci. » N'est-ce pas? C'était aussi ce que disait Job lorsqu'il disait « Ah, qui me fera comme j'étais autrefois ?» Et on a ce sentiment que quelque part, le réveil, ce serait retourner à nos débuts. Ce serait retourner à quelque chose qui au début était beaucoup mieux. Et qui a ensuite s'est érodé, quelque chose qui a... Voilà, on a perdu quelque chose, ça a disparu. C'est un problème. Lorsque sans arrêt, les églises sont en train de rechercher un réveil. C'est un problème lorsque sans arrêt, le croyant recherche une vie telle qu'il l'imagine, qui serait la vie de réveil. Et qu'il ne l'obtient pas. Je crois qu'il faut partir sur une base qui est celle de dire que la vie normale du chrétien, c'est la vie réveillée. Et que si nous sommes à la recherche d'un réveil, c'est que nous sommes endormis. C'est assez logique. Le problème, c'est que dans ces recherches, et on le voit aujourd'hui au travers du monde, les choix qui sont faits par les uns et les autres pour obtenir un réveil nous emmènent et emmènent certains sur des chemins hasardeux où on veut provoquer la puissance de Dieu. N'est-ce pas? Souvent, ce qu'on recherche, ce sont des miracles. Souvent, ce qu'on recherche, ce sont des signes. Ce sont des guérisons. Ce sont des délivrances. Souvent, ce qu'on recherche, c'est que il se passe aujourd'hui ce qui s'est passé à l'époque de la Pentecôte. Ou alors on lit les réveils qui ont eu lieu aux Nouvelles-Hébrides, en Angleterre, un peu partout. Et on se dit, voilà, on va analyser comment ça s'est passé et on va faire exactement pareil et ça va marcher. Et ça ne marche pas. Et s'il y a des choses qui marchent, on s'aperçoit finalement en creusant que c'est complètement démoniaque. Que le malin a utilisé notre soif d'obtenir un réveil, notre insatisfaction personnelle, il l'utilise comme une rampe d'accès et il pénètre dans l'Église, il pénètre dans nos vies et il nous donne toutes les images et toutes les manifestations que l'on veut et on croit qu'on est dans le réveil alors qu'on est... Alors il y a de la poudre d'or qui tombe, il y a des gens qui se roulent par terre en faisant le coq, il y en a qui dansent pendant des heures... Je ne suis pas en train de dire que le Saint-Esprit ne peut pas nous surprendre avec certaines choses. Je suis en train de dire qu'il y a le réveil que Dieu met dans notre vie et il y a les autres choses qui sont finalement le résultat de ce que nous avons provoqué nous-mêmes, d'une recherche qui est tout à fait charnelle. N'est-ce pas, c'était un peu ce que Israël a fait. Ils avaient perdu Moïse sur la montagne, alors ils se sont dit, on va créer un dieu, et puis c'est celui-là qu'on va adorer. On va se faire un truc qui nous plaît. Quelque chose où on va... Ils étaient heureux comme ça. Mais le réveil doit exister. Parce qu'il n'y a pas d'église sans des personnes dans cette église qui sont entièrement réveillées. Si l'église est faite que de personnes endormies, alors nous aurons une église endormie. Si l'église est composée, et là je parle de communauté, de personnes qui individuellement sont réveillées, alors nous aurons une église réveillée. Je ne nie pas qu'il peut y avoir des onctions particulières, qu'il peut y avoir des moments particuliers que choisit Dieu pour augmenter les choses, mais de façon normale, la vie d'une église doit être une église réveillée. Et la question qui se pose, c'est... Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que je me trouve dans ma vie de chrétien, dans ma vie d'église? Est-ce que je vis le réveil? Est-ce que j'ai vu Dieu agir dans ma vie, me réveiller et ensuite... J'ai pris le chemin qu'il m'a montré, j'ai marché sur ses sentiers et je suis rempli de vitalité, de dynamisme pour Dieu. Ou est-ce que je suis allé sur un chemin que je savais que Dieu allait tracer pour moi et peut-être qu'un jour, il y a des choses qui sont passées. Et finalement, aujourd'hui, la vie me semble un peu... différentes. Et donc j'ai en moi cette soif de rechercher quelque chose, de rechercher les premiers jours peut-être, de, en tout cas cette soif que Dieu agisse dans ma vie. Alors, il y avait dans les actes des disciples Acte 1, verset 8, tout le monde le connaît, je vais juste lire le verset. Qui était là? Qui avait un peu été travaillé par Jésus, puisque ça faisait déjà 3 ans qu'ils étaient avec lui? Et ils attendaient quelque chose. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Une des certitudes que l'on peut avoir que le réveil est venu, c'est que nous sommes des témoins. Qu'est-ce qu'un témoin ? Alors, c'est un terme qui est très utilisé dans le juridique. Maïtena pourrait sans doute nous faire un cours sur ce qu'est un témoin. Elle dit non. Mais un témoin, alors un témoin, ça peut être un témoin oculaire ou auriculaire, ou les deux. C'est-à-dire on voit quelque chose, on entend quelque chose. Mais il y a aussi le témoin instrumentaire. Le témoin instrumentaire, c'est celui qui est présent et qui, sur un papier, va signer, déclarer ce qu'il a vu et entendu. Et sa parole a une valeur. Lorsque Jésus dit « Vous serez mes témoins », il le dit aux disciples, mais il le dit à nous aussi. Mais nous n'avons pas vu Jésus. Nous ne pouvons pas témoigner visuellement de Jésus. Est-ce que nous l'avons entendu ? Non, nous ne l'avons pas entendu lorsqu'il était sur la terre. Nous pouvons dire « Ah, mais je l'entends, il parle à mon cœur. » Oui, mais quelle est cette valeur pour le monde ? Aucune. Donc il leur dit « Vous serez mes témoins. » Et en réfléchissant, je me suis dit, peut-être, et sans doute, il a voulu dire « Vous serez mes témoins. » Vous savez, ce morceau, ce bâton qu'on donne lorsqu'on fait de la course de relais. On part dans son couloir, on court le plus vite possible, et lorsqu'on voit l'autre, notre collègue juste en face, il se prépare lui-même à courir, on lui passe un bâton qui s'appelle le témoin. Et c'est ça que disait Jésus. Vous serez mes témoins partout où vous irez. Partout, ce papier où vous dites que vous avez vu, entendu, compris, eh bien vous le transmettez. Et l'autre le prend et il le transmet. Et ainsi, la terre entière sera couverte. Vous serez mes témoins, vous serez mes instruments. Vous voyez, ça va au-delà juste des choses qu'on voit et qu'on entend. Alors, la preuve que nous sommes réveillés, c'est que nous avons la conscience que nous sommes ses instruments entre les mains de Dieu. Que nous sommes certains que Dieu veut utiliser José, Timothée, Esther, chacun dans cette salle, merci. Chacun dans cette salle pour témoigner de l'œuvre de Jésus-Christ dans sa propre vie et de la possibilité de l'œuvre de Jésus-Christ dans la vie des uns et des autres. Une des preuves que nous sommes réveillés, c'est que nous sommes convaincus de cela. Pas que nous l'avons lu dans la Bible, mais que dans mon cœur, j'ai cette certitude que, aussi petit que je suis, aussi incapable que je suis, aussi peu lettré que je suis, aussi peu habile avec ma bouche ou quoi que ce soit que je suis, j'ai acquis la conviction, la certitude ferme et absolue et sans aucune question que le Saint-Esprit me veut pour proclamer et propager la parole de Dieu dans le monde. Si aujourd'hui on n'a pas de certitude sur ces choses, ou s'il y a juste un grand vide concernant cela, alors nous ne pouvons pas dire que nous sommes les témoins de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Parce que sans certitude, nous n'avons aucune capacité à convaincre. Le Saint-Esprit ne peut absolument pas œuvrer au travers de nous. N'est-ce pas? Nos extrémités de la terre à nous se limitent peut-être à notre quartier, se limitent peut-être à nos familles. Mais il nous faut acquérir cette certitude que c'est là que le Seigneur nous place et que c'est là que le Seigneur veut que nous soyons des témoins. On sait que le Saint-Esprit peut évangéliser tout seul la terre. On le sait. On sait que Dieu n'a pas besoin des hommes. Mais là, ce qui est dit, c'est que Dieu veut que nous soyons ses témoins. C'est sa volonté. J'aimerais que nous fassions un grand saut en arrière dans Deutéronome. Où Moïse raconte ce qui s'est passé depuis qu'ils sont sortis d'Égypte et ce qui s'est passé dans le désert. Je vais lire dans le premier chapitre à partir du verset 19 pour nous remettre les choses en tête. Nous partîmes d'Horeb et nous parcourûmes en entier ce grand et affreux désert que vous avez vu. Nous prîmes le chemin de la montagne des Amoréens, comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'avait ordonné, et nous arrivâmes à Kadesh-Barnéa. Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Vois, l'Éternel, ton Dieu, met le pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point, et ne t'effraie point. Vous vous approchâtes tous de moi et vous dites, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Cet avis me parut bon. Et je pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. Ils partirent, traversèrent la montagne et arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshkol, qu'ils explorèrent. Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent. Ils nous firent un rapport et dirent, c'est un bon pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Mais vous ne voulûtes point y monter, et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte, afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterons-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu les enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit, dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour, dans une nuée. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles. Il s'irrita, et jura en disant « Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jephunné. Il le verra lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. L'Éternel s'irrita aussi contre moi, à cause de vous. Et il dit, toi non plus, tu n'y entreras point. Josué, fils de Noun, ton serviteur, y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, et vos fils, qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui y entreront. C'est à eux que je le donnerai, et ce sont eux qui le posséderont. Mais vous, tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer Rouge. » Un peu plus loin, au chapitre 2, verset 14, « Nous passâmes le torrent de Zéred. Le temps que durèrent nos marches depuis Kadès-Barnéa au passage du torrent de Zéred fut de 38 ans, jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre eût disparu du milieu du camp, comme l'Éternel le leur avait juré. La main de l'Éternel fut aussi sur eux pour les détruire du milieu du camp, jusqu'à ce qu'ils eussent disparu. » Et si on retourne juste un petit peu dans Nombre 14, Oui, 14, verset 28. « Je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunné, et Josué, fils de Noun, et vos petits-enfants, dont vous avez dit ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, et vos enfants paîtront 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. » Alors, vos enfants paîtront, vous pouvez aussi le traduire par « vos enfants seront des bergers ». Dans le désert. La preuve que nous sommes réveillés, c'est que nous sommes des croyants dociles entre les mains du Seigneur. C'est que nous sommes des croyants dociles les uns envers les autres. C'est que il n'y a pas de colère, il n'y a pas de murmure, il n'y a pas de ressentiment, il n'y a pas de jugement. Ça, c'est une des preuves que l'Esprit de Dieu est présent et qu'il agit. Et les moyens que Dieu emploie pour nous faire arriver à cela sont parfois difficiles pour les hommes et les femmes que nous sommes, mais ils sont efficaces. Le peuple d'Israël, en résultat de ces murmures incessants, au lieu de rentrer dans le pays promis, a vu reporter son entrée de 40 années. Parce qu'il fallait que Dieu fasse quelque chose auparavant. Il fallait que tout ce qui était de l'ancienne Israël, de l'ancienne nature, disparaisse. Il fallait que les pensées, les entraînements, la façon de réfléchir, la façon de croire, que tout cela soit transformé complètement, que la mentalité complète soit transformée. qu'on ne fasse pas une transposition entre une façon païenne de croire et une façon plus chrétienne, c'est-à-dire qu'on n'importe pas des choses du monde dans les choses de l'Église. Il fallait que cela soit coupé. Que la philosophie des Égyptiens disparaisse. Et le seul moyen que Dieu avait, c'était de faire en sorte que tout ce qu'il nomme les hommes de guerre disparaisse dans le désert. Il fallait que tous soient exterminés. Il fallait que tout ce qui était du vieux meure. Dieu a employé ces méthodes-là souvent. N'est-ce pas? Jacob a eu 14 années de désert jusqu'à ce qu'il puisse épouser Rachel. Jésus lui-même a eu 40 jours de désert pour d'autres raisons. Mais le désert est un passage obligé. Il n'y a pas de réveil s'il n'y a pas eu d'abord de mort. On ne peut pas juste passer de l'un à l'autre comme ça. Ce n'est pas un interrupteur. Et parfois, le Seigneur place ces périodes dans nos vies au moment où on ne s'y attend pas. Est-ce que vous avez commencé à marcher ? Est-ce que vous êtes au bout de vos 40 années? Le désert nous apprend une chose essentielle. C'est la marche par la foi. Pendant de nombreuses années, marchaient côte à côte les hommes de guerre et leurs enfants. Les uns étaient en train d'apprendre le métier de berger, alors que les autres étaient encore en train de râler sur ce que Dieu avait fait. Dieu nous hait. Dieu nous hait, disait-il. C'est pour ça qu'il nous a fait sortir d'Égypte. Non, Dieu ne les haïssait pas, il les aimait, mais ils n'avaient pas compris, parce que là-dedans, ça n'allait pas. Ils n'avaient pas compris que Dieu les aimait, parce que leur cœur était dur, rempli de l'esprit du malin. Et il faut que cela s'arrête. Il faut que cette façon de réfléchir cesse. Et le désert a cette fonction. Et pendant que les hommes de guerre étaient en train de diminuer en nombre, étaient en train de mourir, les hommes de paix, les bergers étaient en train de grandir et de se multiplier. Et à la fin, à la 37e et la 38e année, il n'y avait presque plus d'hommes de guerre, il y avait juste des bergers. Imaginez leur espérance. Imaginez leur foi. Ça y est. Nous y sommes. Ils n'attendaient qu'une chose, c'est que le dernier meure. Ça y est, nous y sommes. Et lorsque le dernier est mort, mais c'était la joie. C'était maintenant la certitude que les choses seraient différentes. L'entrée était possible. C'était fini la manne. On allait passer au lait et au miel. C'était fini le désert, c'était les terres fertiles. Imaginez la joie de ces enfants. Nous avons tous des déserts dans lesquels nous devons passer. Parce que le Seigneur utilise ces choses pour faire naître en nous ce qui est essentiel pour un témoin de Christ, ce qui est essentiel pour un chrétien qui veut se dire réveillé. Il faut que ce qui est de l'ancien disparaisse. Il faut que ce que j'étais avant soit évacué, mais dans tous les domaines, dans tous les domaines, qu'il n'y ait pas de reste. N'est-ce pas, à force de tourner, hier, quand on a enlevé le gravier, là, on s'est dit, on va faire un essai avec la remorque. Stéphane a commencé à reculer sur le gazon, quand on a enlevé la terre, pardon, on s'était dit qu'on pourrait la garder là-bas, dans un coin. Et donc, Stéphane a fait un essai, et avec sa remorque, il a commencé à rouler sur le gazon. Et alors, on lui a dit, arrête, parce qu'il y a des traces qui commencent à se former. Et vous avez déjà roulé sur un chemin de campagne avec un tracteur. Moi, j'ai fait ça il y a des années. Et on passe tous les jours aux mêmes endroits. Et lorsque ce sont des endroits humides, comme des forêts ou des choses comme ça, vous pouvez vous retrouver avec des ornières qui deviennent de plus en plus grandes. Et cette trace qui est là est le début d'une ornière. Et si on était passé une fois ou deux ou trois, on se serait enfoncé chaque fois un peu plus. N'est-ce pas ? Et c'est ça qui se produit dans le désert. C'est que lorsqu'on tourne et qu'on passe toujours aux mêmes endroits, il se crée une ornière. Et quand l'ornière est profonde, eh bien, à l'époque, les tracteurs n'avaient pas de direction assistée. Vous ne pouviez plus sortir. Vous ne pouviez plus sortir, vous pouviez vous mettre debout sur le volant, il n'y avait pas de possibilité. Et si vous alliez encore plus longtemps, eh bien il pouvait arriver un moment, si le tracteur qui était passé avant vous était beaucoup plus haut, pouviez arriver un moment que, pof, c'était le fond du moteur, du châssis, du tracteur qui reposait sur la terre et vous étiez coincé. N'est-ce pas ? Et le désert sert à ça. Le désert sert à vous coincer, à me coincer, à passer et à repasser. N'est-ce pas ? Parce que ça met des années parfois jusqu'à ce qu'on comprenne. Le Seigneur nous parle. Et on continue à tourner. Et on continue à tourner jusqu'au jour où on est vraiment à l'arrêt. Et lorsqu'on est à l'arrêt, c'est fini. C'est là qu'on meurt. Et lorsqu'il y a cette mort, à côté de ça, il y a aussi une naissance. Parce que là, le Seigneur enfin peut vous parler. Le Seigneur enfin peut vous donner des choses. Il peut faire en sorte que vos oreilles s'ouvrent, que vos yeux voient. La main de l'Éternel fut sur eux pour les détruire du milieu du camp jusqu'à ce qu'ils eussent disparu. Lorsque tous les hommes de guerre eurent disparu par la mort du milieu du peuple, l'Éternel me parla. À ce moment-là, on entend la voix de Dieu. La foi arrive, l'espérance arrive. Est-ce que vous êtes né du désert ? Est-ce que vous êtes né dans le désert ? Ésaïe 43, verset 19, c'est donc le verset que j'ai lu tout à l'heure. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Moi, je pourrais m'asseoir juste avec ce verset-là et c'est merveilleux, n'est-ce pas? Des chemins dans le désert. Un chemin dans le désert. Des fleuves dans la solitude. Dans Ésaïe, vous trouvez plusieurs fois ce genre de citation. N'est-ce pas? Mourir dans le désert, c'est être délivré de nous-mêmes. C'est laisser la place. C'est la fin de l'homme de guerre et c'est une place nouvelle laissée aux bergers, à ceux qui sont capables d'administrer la parole, à ceux qui sont capables d'aimer. Est-ce que nous sommes capables d'aimer? Est-ce que nous sommes capables d'aimer? Je ne demande pas, est-ce que tout le monde est aimable? La plupart des gens que nous côtoyons ne sont pas aimables. Mais est-ce qu'en nous, il y a ça qui fait que je ne peux pas m'en empêcher? Il m'énerve, il est comme il est, mais je ne peux pas m'en empêcher. Il me hait, mais je ne peux pas m'en empêcher, je l'aime. Il fait tout pour que je n'aie pas ma promotion et mon avancement, mais je ne peux pas m'en empêcher. Je l'aime. Est-ce que c'est de cet amour-là que Jésus nous parle? Ou est-ce que c'est autre chose? Si c'est autre chose, alors je n'ai pas bien compris la parole de Dieu. Aimez vos ennemis. On ne peut pas aller au-delà de ça. Est-ce que nous sommes capables d'aimer même nos amis? Correctement. Dans ce passage, il dit que ce sont vos enfants, les petits-enfants. Jésus a dit, laissez. J'attends toujours José parce que je suis presque sûr qu'il va me le dire. Laissez venir à moi les petits enfants. Ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. N'est-ce pas? Lorsque cette situation s'est trouvée avec Jésus, qu'est-ce qu'il avait en tête quand il disait ça, Jésus? Il avait d'une part en tête ce qui s'est passé à l'époque du peuple d'Israël. Et d'autre part, il avait nous en tête. Lorsque vous êtes des petits-enfants, alors vous pouvez entrer. Vous pouvez entrer. Vous êtes un petit-enfant. Oh non, moi je ne suis pas un enfant, moi. Je suis mûr. Vous savez ce qu'il y a après le mûrissement, hein? Laissez venir à moi les petits-enfants. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre porte par laquelle on puisse entrer. C'est que l'homme fort, l'homme de guerre disparaisse, que naisse un petit-enfant de ce désert. Alors, il pourra rentrer. Vous savez, une des choses qui montre que le Seigneur est vraiment présent et que vous êtes réveillé, c'est que vous n'avez plus besoin des autres pour vivre. Ce ne sont plus les autres qui vous donnent la vie, mais c'est le Seigneur Jésus lui-même. Et malheureusement, lorsqu'on observe autour de nous, on s'aperçoit qu'il y a toujours ce besoin d'être reconnu, ce besoin d'exister, ce besoin d'être quelqu'un. Et lorsque ça n'existe pas, alors on se croit diminué. On pense qu'on n'est rien. Et alors, finalement, on pense que le Seigneur ne nous aime pas et que nos frères et nos sœurs ne nous aiment pas. alors peut-être qu'il faut encore un peu tourner dans le désert pour que le Seigneur vous montre que c'est lui la nuée ardente, c'est lui la flamme qu'il faut suivre, c'est vers lui qu'il faut regarder uniquement. C'est lui qui va vous donner l'amour dont vous avez besoin et l'importance dont vous avez besoin. Le Seigneur vous a déjà dit que vous étiez important pour lui. S'il vous l'a dit, pourquoi est-ce qu'il faut encore que les hommes vous le disent? N'est-ce pas? Et la preuve donc que nous sommes réveillés, c'est que nous vivons dans le contentement et dans l'acceptation de la situation qui est la nôtre. On va prendre un autre passage dans Actes. Au chapitre 19, je vais lire des versets 11 à 16. Là aussi, c'est une histoire que l'on connaît. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes, juifs ambulants, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Sévin, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. » L'esprit malin leur répondit: « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, s'en rendit maître et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Un chrétien réveillé, c'est un chrétien qui a une réelle influence dans le monde spirituel. Un chrétien qui dort n'inquiète absolument pas le malin. Un chrétien qui vit sa vie au quotidien sans se préoccuper des choses de Dieu n'est absolument pas inquiétant pour les démons. Mais un chrétien réveillé influe sur le spirituel partout où il est. L'apôtre Paul était présent et rien que ses mouchoirs avaient une influence sur le monde spirituel. C'est quand même assez extraordinaire qu'on lise ces choses-là et qu'on continue à vivre nos vies en se disant finalement je ne suis pas si mal, mais on a un problème parce que il se passait là de grandes choses. Et qu'en est-il de nous? N'est-ce pas? Lorsque l'apôtre Paul était présent dans une situation, c'est pas lui qui se sentait oppressé par les esprits mauvais. C'est les esprits mauvais qui se sentaient oppressés par lui. C'est ça le bon sens des choses. Alors, on peut sentir la présence de ces choses-là, évidemment. Mais d'en subir les conséquences, c'est hors de question. Ce qui est normal, c'est que les démons aient peur. Lorsque le croyant réveillé est présent, les démons ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils disent, « Oh, c'est Jésus qui revient. C'est lui de nouveau qui est là. » Ils reconnaissent l'Esprit de Jésus dans l'homme. Et c'est ce qui s'est passé exactement dans cette histoire avec l'apôtre Paul. Il y avait là des gens, peut-être bons religieux, les fils d'un souverain sacrificateur, bien éduqués. Ils ont vu ce que l'apôtre Paul faisait, Et ils se sont dit, mais nous, on va faire pareil. Le résultat, c'est que les démons ont vu le vide qu'il y avait chez eux. Ils ont vu qu'il n'y avait rien d'inquiétant là-bas. Et c'est pas parce que vous priez au nom de Jésus que ça va faire une différence. Pas du tout. Il y a des gens qui disent ça comme une litanie un peu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Si Jésus n'est pas dedans, ça sert à rien du tout. Lorsque les démons ont vu qu'il n'y avait rien dans ces gens, eh bien, ils ont eu de la chance encore, parce qu'ils se sont juste fait rosser. Mais les démons auraient très bien pu s'emparer d'eux et les posséder complètement, jusqu'à la fin de leur jour. Qu'est-ce que ça fait comme différence lorsque nous sommes confrontés à ce genre de situation? Est-ce que c'est moi qui me sens oppressé? Ou est-ce que c'est la personne ou les démons autour de moi qui se sentent en danger? C'est ça le bon ordre des choses dans la parole de Dieu. Un chrétien réveillé influence fortement le milieu spirituel dans lequel il se trouve. N'est-ce pas? Dans Colossiens 1, verset 13, il s'est dit que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, par son sang, la rémission des péchés. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. C'est pas une idée pour l'avenir, c'est ce qui s'est passé. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Est-ce que nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres, ou est-ce que il y a en nous cette force qui nous bloque, qui nous empêche de penser, qui nous empêche de nous réjouir dans le Seigneur, qui nous empêche d'avancer au quotidien, qui vient sans arrêt nous mettre des bâtons dans les roues. Alors, il y a peut-être encore un peu de chemin à faire dans le désert. Parce qu'il faut là qu'il y ait une rencontre. Il faut que Dieu parle. Il faut qu'il y ait une nouvelle naissance. Nous côtoyons en tant que chrétiens des gens qui sont troublés autour de nous. Mais si nous-mêmes, nous ne sommes pas en paix, si nous-mêmes nous sommes troublés, comment est-ce que nous allons pouvoir les aider? Quel genre d'aide est-ce que nous allons pouvoir leur administrer? Les techniques que nous offre le monde? Alors que nous-mêmes, nous avons des besoins. Je n'ai pas de doute quant aux fils de Séva. Ils étaient sans doute honnêtes dans leur démarche. Peut-être qu'ils voulaient faire du bien. Peut-être qu'ils voulaient juste s'amuser. Le chrétien réveillé a une réelle influence sur les choses spirituelles. Alors, rapidement. Le chrétien réveillé est une offense au monde sans Dieu. Lorsque nous sommes animés par l'Esprit de Dieu, lorsque Dieu a mis sa marque sur nous, alors il se passe quelque chose. C'est que lorsque nous parlons de lui, ou même des fois lorsque nous n'en parlons pas, mais que nous sommes juste là, au milieu des gens, il y a une sorte de tension qui peut aller plus loin à l'énervement, qui peut aller encore plus loin, qui peut être la persécution. et qui peut aller encore plus loin, qui peut être la mort. C'est ce qu'a expérimenté Étienne lorsqu'il s'est adressé et lorsqu'il a parlé sans compromission aux religieux. Il s'est retrouvé qu'il a été saisi. Et il est dit dans le psaume 35, « Ils m'ont haï sans cause. » N'est-ce pas? Et c'est ça la marque du chrétien réveillé. C'est que le monde ne les aime pas. Le monde les hait. La volonté du monde, ce n'est pas de faire en sorte que tout se passe bien pour les chrétiens. C'est de faire en sorte que tout se passe mal. Dans certains pays, c'est la mort lorsque l'on parle de Dieu. Chez nous, pour l'instant, ça ne l'est pas. Mais si nous avons beaucoup de succès dans le monde, alors nous devons nous préoccuper sérieusement de notre situation spirituelle. Si nous sommes bien aimés dans le monde, alors nous devons nous poser des questions. Est-ce que j'ai le courage d'annoncer la parole de Dieu sans compromission? Ou est-ce que je suis de ceux qui font en sorte que jamais je ne dépasse la ligne, comme ça je garde mes amis? Et l'idée c'est toujours, ah oui, mais il vaut mieux les garder parce que après, on ne sait jamais, la bonne occasion va venir et à ce moment-là je pourrai leur parler de Dieu plus franchement. M'excuserez, mais c'est se tromper complètement. La parole de Dieu s'annonce. Et il n'y a qu'une seule façon d'annoncer la parole de Dieu. C'est sur la base, sur des bases scripturaires. Il y a un chemin pour rencontrer le Seigneur Jésus. Ça passe par la repentance. Ça passe par la prière et l'adresse à Dieu. Et on ne peut pas faire autrement que de dire ces choses clairement. Et lorsqu'on le dit, il est normal que l'on soit persécuté pour cela. Il est normal que les gens aient finalement envie de nous tuer. Peut-être que dans le futur, cela se produira pour certains d'entre nous. Mais est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave de mourir lorsque on annonce l'évangile de Jésus-Christ autour de nous? Ce n'est pas souhaitable. Mais si l'on mourait pour quelque chose de moindre que cela, si l'on mourait parce qu'on veut garder nos intérêts, si l'on mourait parce que on veut garder notre confort, alors ce serait terrible. Mais si l'on donne sa vie à Jésus aujourd'hui, si déjà nous sommes esclaves de notre Seigneur Jésus aujourd'hui, alors mourir demain parce que nous annonçons l'Évangile, ce n'est pas un drame, n'est-ce pas? Frères et sœurs, l'Esprit de Dieu peut-il compter sur nous aujourd'hui pour être des témoins autour de nous? L'Esprit de Dieu peut-il compter sur moi et sur vous comme un homme et une femme dociles en qui il va pouvoir travailler réellement et au travers de qui il va pouvoir travailler sans qu'il n'y ait de problèmes et de difficultés? L'Esprit peut-il compter sur des croyants et des croyantes délivrés d'eux-mêmes, de leur propre importance? Le Saint-Esprit peut-il compter sur des croyants sans compromission, prêts à payer le prix, prêts à être haïs, sans cause, sans aucune raison? Le Saint-Esprit peut-il compter sur nous? Voilà, je vous laisse avec cette question. Seigneur, nous avons juste effleuré du doigt le plan parfait que tu as pour les hommes et les femmes qui te suivent. Seigneur, il y a tant de choses que tu veux nous apprendre et nous dire au travers de ta parole. Seigneur, je prie pour que, Seigneur, aujourd'hui, le Saint-Esprit puisse recevoir devant lui des cœurs disposés à laisser leur vie dans le désert et à entrer dans de nouveaux chemins, ce que tu as tracé dans un autre pays. Seigneur, je prie pour que tu nous montres à chacun ce que c'est que de vivre le réveil au quotidien. Seigneur, je m'attends à toi pour moi-même, je m'attends à moi pour mes frères et sœurs. Seigneur, afin que tu nous guides et que tu nous conduises dans toute cette vérité qui est la tienne. Seigneur, je prie pour que tu répondes aux appels des cœurs ce matin, à ceux, Seigneur, qui ont décidé que aujourd'hui les choses seront différentes. Seigneur, à ceux à qui tu as parlé ce matin, ô Dieu, que tu puisses agir pour une transformation radicale. Seigneur, merci pour ton amour qui est si puissant et qui est si vrai. Merci, Seigneur, parce que tu veux nous convaincre de toi comme étant l'élément essentiel et unique pour notre vie, comme étant le seul qui peut agir dans le spirituel, comme étant le seul qui peut avoir une influence sur nos proches et qui peut et les amener à toi. Seigneur, nous voulons sortir ce matin avec une nouvelle espérance, avec une foi renouvelée, avec cette certitude qu'aujourd'hui encore tu agis et que le réveil, ce n'est pas pour demain, mais qu'il doit commencer dans notre cœur aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà.